Vous écoutez, on lit pour vous.
Un glacier officiellement disparu en Colombie. Une actualité de l'agence France Presse parue le 17 avril 2026 dans la presse. Autrefois recouverte de glace, seule la roche mise à nu apparaît désormais. Un glacier colombien a été officiellement déclaré disparu en raison de l'élévation des températures provoquées par le changement climatique. L'Institut d'hydrologie, de météorologie et des études environnementales, IDEAM, de Colombie, a déclaré éteint le glacier Cerros de la Plaza, situé dans la Sierra Nevada del Cocuy, au nord-est du pays, dont la superficie était de 5 km² au 19e siècle. Des images satellites montrent comment la calotte glaciaire recouvrant la montagne s'est réduite progressivement à partir de 2015, jusqu'à totalement disparaître en mars 2026. Le changement climatique est une réalité qui transforme déjà nos territoires. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le paysage, mais l'équilibre même des écosystèmes, a déploré l'IDEAM dans un communiqué. Considéré comme l'un des pays au monde à la plus riche biodiversité, la Colombie subit les conséquences de la hausse des températures sur la planète, qui menace ses sommets enneigés et les habitats des condors et des mammifères. La Sierra Nevada del Cocuy, dont les sommets dépassent les 5000 mètres d'altitude, fait partie des 6 derniers systèmes glaciaires encore présents dans le pays, où la surface couverte de glace s'est réduite de 90 % depuis le 19e siècle, selon le ministère de l'Environnement. Les glaciers andins alimentent les sources d'eau douce de la région, les écosystèmes de montagne et jouent un rôle crucial dans l'irrigation des cultures, la pêche et de nombreuses activités humaines. Année record. La quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, a alerté fin mars l'Organisation météorologique mondiale, OMM, une agence de l'ONU. Les activités humaines perturbent de plus en plus l'équilibre naturel, et nous devrons vivre avec ses conséquences pendant des centaines, voire des milliers d'années, a prévenu la secrétaire générale de l'organisation, Celeste Saulo. Dans son rapport, l'OMM confirme que les années 2015 à 2025 sont les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées et que l'année 2025 se classe au deuxième ou au troisième rang avec une température supérieure d'environ 1,43 degrés à la moyenne de la période 1850-1900. Le réchauffement océanique et la fonte des glaces entraînent une élévation à long terme du niveau mondial moyen de la mer, qui s'est accéléré depuis le début des mesures satellitaires en 1993. Ce niveau était en 2025 supérieur d'environ 11 cm à celui enregistré au début des relevés. C'était un glacier officiellement disparu en Colombie. Une actualité de l'agence France Presse parue le 17 avril 2026 dans la presse.
Les arbres promis par Justin Trudeau ont finalement coûté bien plus cher. Un texte de Boris Proulx, paru le 17 avril 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Le programme canadien, 2 milliards d'arbres, coûtera 2,3 milliards de dollars jusqu'en 2031. Chaque arbre coûtera environ 2,40 $ contre les 1,58 $ initialement prévu. Le gouvernement fédéral n'a jamais atteint ses cibles de plantation depuis le début du programme. Le défunt programme fédéral 2 milliards d'arbres, lancé en 2020, a beau avoir été arrêté à mi-chemin par le premier ministre Mark Carney, le gouvernement sera loin d'économiser la moitié du budget initial. Le programme de plantation, désormais deux fois moins ambitieux, reviendra tout de même à une facture totale de 2,3 milliards de dollars jusqu'en 2031, montrent des documents gouvernementaux déposés auprès d'un comité parlementaire et obtenus par Le Devoir. Cela signifie que moins d'un milliard de dollars, 860 millions, doivent être retournés au cadre budgétaire fédéral sur les 3,16 milliards initialement prévus pour planter tous ces arbres. L'essentiel des dépenses encore prévues consiste à honorer les ententes déjà conclues avec les partenaires. Selon l'ambition révisée du programme en 2025, le maintien de ces ententes doit maintenant permettre de mettre en terre environ 1 milliard d'arbres jusqu'en 2031. C'est exactement la moitié de la promesse formulée par Justin Trudeau à la militante écologiste Greta Thunberg lors de son passage à Montréal en 2019. Plus cher de l'arbre. Ottawa n'est simplement jamais arrivé à réaliser son plan de ne débourser, en moyenne, que 1,58 $ par arbre, tout en passant le reste de la facture à des partenaires locaux disposés à respecter ces strictes conditions. Les dernières projections des coûts montrent que chaque arbre aura coûté bien davantage, soit environ 2,40 $, si l'on soustrait du calcul les 54 millions d'arbres ajoutés sans explication au bilan de manière rétroactive et qui ont été payés par un autre portefeuille. Le Devoir a aussi révélé que le programme 2 milliards d'arbres avait dépensé 110 $ par arbre dans un contrat prévoyant la plantation de 10 000 arbres urbains à Joliette, au Québec. Ce rythme de dépenses était à l'évidence insoutenable pour le budget imparti au programme. En 2024, Ottawa s'est finalement entendu avec Québec pour la plantation de 110 millions d'arbres sur 7 ans, pour lesquels chaque gouvernement paiera 2,20 $ l'arbre. Le fédéral a, du coup, assoupli ses critères pour permettre la récolte de ces arbres à long terme. Compte tenu de la portée nationale du programme et de son évolution au fil du temps, les comparaisons fondées uniquement sur le coût moyen par arbre ne reflètent pas les réalités opérationnelles liées à la mise en œuvre d'un programme de cette envergure, a déclaré la porte-parole de Ressources naturelles Canada, Maria Ladouceur. Planification adéquate. Le ministère évoque bien quelques pistes pour expliquer l'explosion du coût moyen de l'arbre planté, comme les phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire la sécheresse ou les feux de forêt, par exemple, ainsi que l'inflation et le contexte économique qui rendent tout projet de plantation plus cher. Ottawa a systématiquement raté ses cibles de plantation chaque année depuis le lancement du programme. Confronté à certaines incohérences financières, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, avait bel et bien confié au Devoir que le financement du programme nommer 2 milliards d'arbres, n'arriverait jamais à planter 2 milliards d'arbres, malgré ce que dit son nom. Clairement, le budget qui est en place n'aurait pas permis d'atteindre 2 milliards d'arbres selon ces coûts-là. C'était du jovialisme vert. Critique le député du Bloc québécois, Patrick Bonin, aussi vice-président du Comité permanent de l'environnement et du développement durable. Marc-André Viau, directeur chez Équiterre, espère que le gouvernement tirera des leçons de bonne gestion de cette expérience. Mais c'est difficile d'évaluer ce que vaut la nature, convient-il. En général, la reforestation apporte de nombreux bénéfices variés qui vont au-delà de la simple lutte contre les changements climatiques. C'était « Les arbres promis par Justin Trudeau ont finalement coûté bien plus cher ». Un texte de Boris Proulx paru le 17 avril 2026 dans Le Devoir.
Un grand miroir dans le ciel nocturne. Une start-up veut lancer un miroir spatial. Un texte de Kenneth Chang et Hiroko Tabuchi du New York Times paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir. Une start-up américaine veut illuminer la nuit avec 50 000 grands miroirs en orbite autour de la Terre, renvoyant la lumière du soleil vers la face nocturne de la planète afin d'alimenter des panneaux solaires après le coucher du soleil, d'éclairer les équipes de secours et d'illuminer les rues des villes, entre autres. Des scientifiques soulèvent des questions sur le projet. C'est une idée qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais l'entreprise Reflect Orbital, basée à Hawthorne, en Californie, pourrait bientôt obtenir la permission de lancer son premier satellite prototype doté d'un miroir de 18 mètres de large. La société a déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission, FCC, qui délivre les licences nécessaires au déploiement de satellites. Si la FCC l'approuve, le satellite de test pourrait être mis en orbite dès cet été. La période de consultation du public sur la demande s'est terminée lundi 16 mars 2026. Nous essayons de construire quelque chose qui pourrait remplacer les combustibles fossiles et vraiment tout alimenter, a déclaré Ben Novak, directeur général de Reflect Orbital, dans une entrevue. L'entreprise a levé plus de 28 millions de dollars auprès d'investisseurs. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un envisage de le faire. En 1977, un ingénieur en fusée d'origine allemande, Kraft et Herrick, avait proposé des miroirs spatiaux pour prévenir le gel des cultures et éclairer les zones sinistrées. Et en 1993, un satellite russe équipé d'un miroir d'environ 24 mètres de diamètre avait brièvement réfléchi un mince faisceau de lumière solaire sur la planète dans le cadre d'une expérience visant à prolonger les heures d'ensoleillement dans l'Arctique sibérien. L'idée est controversée. Nous n'avons tout simplement pas encore de processus réglementaire pour ce type d'activité spatiale nouvelle, a déclaré Rui Dalal, astronome et directrice des politiques publiques à l'American Astronomical Society. Les opposants affirment que les miroirs pourraient distraire les pilotes d'avions, perturber les observations astronomiques et interférer avec les rythmes circadiens, ces cycles lumière-obscurité qui indiquent aux êtres humains, aux animaux et aux plantes quand se réveiller et dormir, quand fleurir, quand migrer et ainsi de suite. Si les animaux étaient perturbés par cette lumière supplémentaire, ils pourraient se reproduire au mauvais moment, quand la nourriture est rare, a indiqué Martha Hotz-Vitaterna, professeur de recherche en neurobiologie à l'Université Northwestern et co-directrice du Centre de biologie du sommeil et des rythmes circadiens. Les insectes en hibernation et les oiseaux migrateurs pourraient eux aussi être désorientés. Une lumière diffusée au mauvais moment de la journée pourrait également provoquer la floraison de plantes en l'absence de pollinisateurs actifs, a précisé Martha Hotz-Vitaterna. Les implications pour la faune, pour toute forme de vie, sont énormes, a-t-elle dit. Pas d'évaluation environnementale. Mais ce ne sont généralement pas des préoccupations que la FCC prend en compte lors de l'examen des demandes de satellites. L'agence vérifie plutôt que les communications radio d'un engin spatial ne créent pas de problème d'interférence pour les autres et que l'engin sera mis hors service de manière sécuritaire en fin de vie opérationnelle. La position de l'agence est que les activités dans l'espace, qui, par définition, ne se déroulent pas sur Terre, ne sont pas soumises à une évaluation environnementale. L'agence n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant la demande de Reflect Orbital. Le prototype de Reflect Orbital, qui sera à peu près de la taille d'un mini réfrigérateur de chambre d'étudiant, est presque terminé. Une fois dans l'espace, à environ 650 km d'altitude, le satellite de test déploiera un miroir carré de près de 18 mètres de côté. Celui-ci renverrait la lumière solaire pour illuminer une zone circulaire d'environ 5 km de diamètre à la surface de la Terre. Une personne levant les yeux verrait dans le ciel un point lumineux, à peu près aussi brillant qu'une pleine lune. Deux autres prototypes pourraient suivre dans l'année. D'ici la fin de 2028, Reflect Orbital espère lancer 1000 satellites de plus grande taille, puis 5000 d'ici 2030. Les plus grands miroirs sont prévus pour atteindre près de 55 mètres de large, réfléchissant autant de lumière que 100 pleines lunes. L'entreprise indique que son objectif est de déployer la constellation complète de 50 000 satellites d'ici 2035. Combien coûte la commande de lumière solaire la nuit? Ben Novak a indiqué que l'entreprise facturerait environ 5 000 $ l'heure pour la lumière d'un seul miroir dans le cadre d'un contrat annuel d'au moins 1 000 heures. L'éclairage pour des événements ponctuels et des urgences, qui pourraient nécessiter de nombreux satellites et une coordination plus importante, serait plus onéreux. Pour les parcs solaires, il envisage de partager les revenus tirés de l'électricité générée grâce aux heures d'ensoleillement supplémentaires. Ben Novak a affirmé que les satellites de Reflect Orbital pourraient contribuer à réduire la combustion de combustibles fossiles et ainsi ralentir les changements climatiques. L'une des principales faiblesses de l'énergie solaire est que la production d'électricité s'arrête au coucher du soleil. Un ciel déjà pollué. Les astronomes ont tiré la sonnette d'alarme quant aux répercussions sur leurs observatoires de la multiplication rapide des satellites qui sillonnent le ciel nocturne. La constellation de près de 10 000 satellites Starlink, exploitée par SpaceX, la société d'Elon Musk, produit désormais régulièrement de brillantes traînées lumineuses sur les photographies de l'univers prises par les télescopes au sol. Michael Brown, astronome à l'Université Monash en Australie, a calculé que la lumière solaire réfléchie par un seul satellite se répartirait sur environ 46 km². Cela signifierait que le nombre de photons atteignant un panneau solaire représenterait environ 1 sur 140 millième du taux observé en plein midi. Même avec des miroirs de 55 mètres de large, il faudrait plus de 3 000 satellites pour produire l'équivalent de seulement 20% du soleil de midi sur un seul site, a écrit Michael Brown dans son commentaire à la FCC concernant la demande de Reflect Orbital. Avec 87 000 satellites, l'entreprise pourrait fournir, au mieux, 20% de l'ensoleillement de midi à 27 sites, a-t-il précisé. Il estime qu'un réseau de satellites à miroir ne constitue pas un moyen efficace pour augmenter la production d'énergie. Je pense que cette idée refait surface en raison de sa simplicité et de son élégance apparente, a déclaré Michael Brown en entrevue. Mais quand on commence à faire les calculs, et ils sont assez simples à faire, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes sérieux. Gaspar Backus, astronome à l'Université Princeton, a remis en question l'affirmation de l'entreprise selon laquelle la lumière réfléchie ne serait visible que dans la zone ciblée. La lumière est inévitablement diffusée par les particules de l'air et le halo produit par le faisceau pourrait éclaircir le ciel nocturne sur des kilomètres supplémentaires. Un effet bien connu avec l'éclairage public, même des petites villes, a-t-il indiqué. Ben Novak de Reflect Orbital a répondu que l'entreprise avait étudié la question de la diffusion dans des simulations et que les effets n'étaient pas aussi graves que le décrivaient les critiques. Le satellite de test permettra de vérifier cela, a-t-il dit. Nous prévoyons de montrer exactement ce qui se passe avec de vraies mesures dans le monde réel, à partir de notre vrai satellite, a-t-il affirmé. Ça va aider énormément. On ne peut pas falsifier ça. C'était un grand miroir dans le ciel nocturne. Une start-up veut lancer un miroir spatial. Un texte de Kenneth Chang et Hiroko Tabuchi du New York Times, paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir.
Semer sur le bitume, un texte de Sandra Fauché-Marquis, paru le 1er avril 2026 dans La Presse. Enseignante de français et d'art dramatique, Sandra Fauché-Marquis nous livre ses réflexions. Récemment, Mario Girard a interrogé ses lecteurs relativement à leur premier contact avec la culture en contexte scolaire. Cela m'a plutôt ramené à mes débuts en arts et lettres, profil théâtre au cégep, lorsque je me suis retrouvée devant la question suivante : qu'est-ce que la culture ? Je me souviens de m'être alors interrogée à savoir pourquoi l'on regroupait les arts sous ce substantif qui tient plutôt du champ lexical de l'agriculture. Je n'avais pas encore acquis la notion du figuré, la quintessence de l'analogie. Consommer les arts vivants, n'est-ce pas cultiver son jardin intérieur ? Semer dans son esprit des référents culturels et, au moment des récoltes, interpréter le monde avec une meilleure acuité ? Au Québec, alors que nous possédons une corne d'abondance, tant notre milieu artistique foisonne, je m'explique mal pourquoi l'on exige presque toujours de ce dernier qu'il sème sur le bitume. En réalité, le sens du mot « culture », j'estime l'avoir pleinement compris lorsque je suis devenue enseignante et que j'ai revêtu mon rôle de médiatrice d'éléments de culture, c'est-à-dire celui de répandre, avec la patience du jardinier, de petites bribes d'humanité chez des êtres dont la pensée s'apparente à un bourgeon sur le point d'éclore, chez des êtres à l'émerveillement non encore flétri. Victoire amère. Au regard de ma posture d'enseignante de français et d'art dramatique, l'accès universel à la culture pour les élèves du Québec m'importe considérablement. Aussi ai-je attendu avec inquiétude et espoir les annonces liées au budget 2026-2027 le mercredi 18 mars 2026. Bien que je partage le soulagement des milieux scolaires et artistiques en ce qui a trait au maintien du financement du programme « La culture à l'école », je m'interroge quant au soulèvement populaire qu'il aura fallu simplement pour conserver cette mesure essentielle. Front commun, chronique dans les médias, pétition présentée à l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, il s'agit d'une victoire teintée d'amertume. Pourquoi menace-t-on si souvent la culture d'être laissée en jachère ? À Sherbrooke, où je réside, nous disposons depuis peu d'une salle de spectacle destinée au public jeunesse, le Grand Espace, inauguré il y a moins d'un an. Ce lieu de diffusion s'avère le fruit d'un parcours du combattant, un projet presque chimérique porté à bout de bras par la communauté artistique de la région pendant plus de 3 décennies. Considérant que la clientèle scolaire représente une large part de la vente de billets, si les subventions accordées aux sorties culturelles en venaient à diminuer, cette salle, tant rêvée et tant attendue, se viderait de son auditoire, ce qui condamnerait les artistes à se produire devant des spectateurs fantômes. J'aimerais ne plus jamais craindre ce type de scénario. Lors de ma lecture de la version provisoire du programme remanié d'enseignement du français, j'ai salué le fait qu'une variété d'expériences culturelles y soit prescrite annuellement, dont la fréquentation d'un lieu mettant en valeur la langue et la culture. Or, ma première réflexion a été la suivante. Comment les milieux scolaires, déjà aux prises avec des restrictions budgétaires austères, pourront-ils respecter ces nouvelles balises sans recevoir de fonds supplémentaires à cet effet? Les 119 millions de dollars annoncés pour sauver le programme La culture à l'école suffiront-ils? Si les retombées des investissements en culture ne se perçoivent pas lors des moissons budgétaires, celles-ci dépassent souvent largement les champs financiers. Initier les jeunes aux arts vivants, c'est leur permettre de vivre des expériences authentiques de la catharsis qui ne pourraient pas être ressenties aussi intensément devant un écran. Ces expériences créent des moments bénis qui s'inscrivent longuement dans la mémoire émotionnelle d'un individu. Au printemps 2024, j'ai assisté avec des élèves à une représentation d'André et Dorine, une pièce de théâtre masquée et sans texte, de laquelle nous sommes ressortis les yeux mouillés et la gorge nouée de sanglots. Encore aujourd'hui, je ne peux mentionner ce spectacle en classe sans provoquer un bref silence accompagné d'un frisson collectif. Bien qu'intangibles, les impacts positifs des sorties culturelles sont réels et persistent dans le temps. N'oublions jamais que sans accès universel à des produits culturels de qualité par l'intermédiaire du milieu scolaire, notre jeunesse se gavera principalement de fraises de la Californie alléchantes à l'extérieur, insipides à l'intérieur, devant Netflix ou d'autres plateformes génétiquement modifiées en provenance des États-Unis. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Cet été, je ferai un jardin. J'en prendrai bien soin. Chantait Clémence Desrochers. Même restreinte à une petite parcelle de terre en milieu aride, je continuerai à semer à tout vent des référents culturels qui germeront et croîtront, je l'espère, dans les esprits de mes élèves, et ce, même s'il me faut semer sur le bitume. J'aimerais seulement qu'on n'omette pas de me distribuer un peu d'eau et du soleil. C'était « Semer sur le bitume », un texte de Sandra Fauché-Marquis, paru le 1er avril 2026 dans La Presse.